Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute.
Bonjour Noémie Lézy.
Bonjour.
Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette année encore, le podcast 2030 Glorieuse, je le dis toujours au début, c'est important pour moi, il est soutenu par la NEF. La NEF, c'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient et accompagne depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. Et c'est un partenaire qui me permet de rencontrer des gens inspirants comme toi aujourd'hui, Noé. Toi, Noé, tu es responsable des ateliers éclairés. On va en reparler plus longuement. C'est un tiers-lieu créatif dans lequel la conception et la production assistée par ordinateur se mêle aux pratiques artisanales. Pareil, il y a plein de choses que tu dis là qui sont... moi j'ai lu sur le projet qui donne envie. Ensemble, nous discuterons de la place de la technologie dans nos vies, de créativité, d'innovation et de comment redonner aux individus le pouvoir de faire soi-même. Vaste programme, Noé. La première question que je pose à toutes les personnes à qui je donne la parole, imagine, tu es dans un événement où tout d'un coup, autour de toi, il y a plein de gens que tu connais pas, tu rencontres quelqu'un et la première question tombe tel un couperet. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Tu réponds quoi?
C'est une question qu'on me pose régulièrement, donc ouais. Ça va, je pense que ça va aller. Qu'est-ce que je fais? Écoute, je coordonne des personnes qui ont des projets intéressants et j'essaie de les faire voir par le plus grand nombre. Concrètement, et je crée du lien dans un lieu où on essaie de valoriser les métiers manuels et les métiers où les gens sont heureux de se lever le matin.
Alors je vois bien effectivement ta tâche de chef d'orchestre, de mettre en lien, d'éclaireur peut-être, de toute la coordination en termes de calendrier, sans doute même de partenariat, de recherche de financement, etc. qui sont en général inhérents à l'idée de monter des projets. Et à la fois je trouve que c'est très stéréotypé ancien monde cette manière de se présenter. Moi j'aimerais vraiment que tu m'aides à comprendre à quel problème, à quel enjeu ou à quoi tu contribues, même presque si on pouvait le valoriser positivement. Et j'aurais, de ce que j'ai compris, tendance à te présenter comme un accélérateur d'autonomie, quelqu'un qui va travailler à l'appropriation de la créativité par le faire. Comment tu le dirais?
Alors, je t'avoue que moi, j'ai tendance à simplifier justement le. J'ai du mal à utiliser justement des termes qui sont très bien écrits. Et j'essaie de simplifier un petit peu la tâche. Je me retrouve plus comme une personne qui montre avoir vraiment des talents et des façons de faire qui existent déjà, qui sont pas forcément toutes novatrices, mais qui en fait sont novatrices dans leur façon d'être expliquées aux gens et de mettre en fait en lien des talents locaux avec tout simplement des gens d'un quartier et du réel, c'est-à-dire comment mettre en lien le citoyen avec les artisans qui sont à côté de chez lui, comment mettre en lien le citoyen avec des monteurs d'entreprise, des artistes, faire comprendre une démarche artistique et donner des moyens des moyens de production et montrer les possibles qu'on a aujourd'hui en fait avec les nouvelles technologies, avec des machines-outils numériques et en fait tous et avec les réseaux qui nous permettent d'être en lien rapidement avec des talents autour de chez nous et même au niveau international.
On a parlé tout à l'heure, je t'ai présenté comme le responsable des ateliers créés, qui se tiers lieu créatif à Strasbourg, dont le cœur, le centre, est un Fab Lab, un makerspace. Je sais que c'est des termes qui sont de plus en plus utilisés, donc de plus en plus connus, mais est-ce qu'on peut quand même très rapidement revenir sur une présentation un peu de ce que ça veut dire un Fab Lab, de ce que ça veut dire un peu un makerspace, et que tu nous reproposes l'historique aussi de la création de ce tiers lieu au passage ?
Ouais, complètement. Alors, un Fab Lab, c'est un atelier de prototypage. Donc, si tu veux, c'est un lieu ouvert au public dans lequel on va leur offrir un espace de bricolage avec des outils traditionnels de bricolage. On va leur donner également accès à des machines-outils numériques qui sont des imprimantes 3D, des découpeuses laser et des fraiseuses, notamment fraiseuses CNC. Et l'idée, c'est de former le public parce que c'est des machines qui sont assez simples d'utilisation et en 2-3 heures, vous êtes capable de l'utiliser pour produire des objets du quotidien, du mobilier, de la décoration, des projets artistiques. Enfin, si tu veux, à la base, quand ça a été créé, les Fab Labs, ça a été monté au MIT, aux États-Unis. Et c'est un cours de design qui devait s'appeler « Comment fabriquer à peu près tout et n'importe quoi ». Donc, je pense que c'est une bonne définition de ce qu'est un Fab Lab. Un outil à disposition du public. Concernant les tiers-lieux, la définition que j'ai assez simple, c'est... Premier lieu, c'est ton travail. Le premier lieu, c'est chez toi. Le deuxième, c'est ton travail. Le troisième, c'est un mix un petit peu des deux. Le tiers lieu, un endroit où tu vas faire société en allant à des moments de vie, où tu peux aller profiter d'un verre avec des amis, où tu vas pouvoir parler travail, tu vas bricoler, tu vas rencontrer des artisans, etc. C'est un lieu où on se sent bien, on a envie de travailler et on voit des gens qui font.
Alors, on va reparler de ce tiers lieu qui est, comme tu le dis, pile poil à l'interstice entre vie pro, vie perso, avec en plus tout un espace créatif, culturel, artistique qui me plaît bien et qui m'intéresse, et j'ai envie qu'on revienne là-dessus. Et à la fois, j'avais envie de m'intéresser aussi un tout petit peu à ton parcours, si tu le veux bien, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait des formations responsables de tiers-lieux, managers de Fab Lab, comment on en vient un peu à arriver à occuper un poste comme le tien, parce que forcément les gens qui nous écoutent là, il y en a plein qui vont se dire ça a l'air trop bien ce qu'il fait Noé, moi je veux faire pareil, donc comment ils y arrivent alors ces gens-là?
Alors, de plus en plus, il commence à y avoir des formations sur les Fab Managers et sur le montage de tiers-lieux, etc. Concrètement, j'étais à des années-lumière de tout ça au début de ma carrière professionnelle. Donc, si tu veux, à la base, je viens d'une famille où mon père s'occupe d'une association qui gère de la formation BAFA et des colonies de vacances, donc de l'animation et de l'éducation populaire. Et ma mère est institutrice en maternelle en ZEP. Donc voilà, ça c'est plutôt mon milieu d'origine. Après, moi je m'oriente vers la communication. Donc je fais des études de communication, 360, événementiel, relations presse, donc vraiment assez éloigné de ce que c'est un tiers-lieu, etc. Et vient en fait vient un ami que j'ai croisé en sortie d'examen. J'ai eu la chance de faire un stage du coup dans le Fab Lab, dans l'association AVLAM, qui était domiciliée du coup au Shadok avant à Strasbourg. C'est passé d'un stage à une alternance, à un CDI. J'ai rencontré en fait une dynamique des fondateurs de l'association du coup qui avaient monté le Fab Lab, qui sont architectes, graphistes, designers, et qui en fait eux avaient un vrai projet autour de ce lieu de création qui était utile pour leur projet à eux, mais également pour la communauté des gens qui côtoyaient, architectes, etc. Ils ont monté ce projet-là et de fil en aiguille, je me suis intégré à tout ça. J'ai découvert du coup tous ces profils très variés qui sont les utilisateurs d'un Fab Lab, des créatifs, des artistes, des scientifiques, du tout venant, des retraités, des gamins qui viennent s'imprimer en 3D. J'ai rencontré tout un milieu et moi, si tu veux, j'ai suivi une impulsion qui était portée par les créateurs de cette association. Et au fur et à mesure, les projets ont évolué. On a répondu à des appels à projets pour monter ce nouveau tiers-lieu, du coup, à la COP, à la frontière entre Strasbourg et l'Allemagne. on l'a remporté. Il y a eu le confinement. Et de fil en aiguille, eh ben, je me suis retrouvé à gérer au réel quoi, le lieu, de coordonner ces espaces, d'aller à la recherche de résidents, artisans et artistes pour le lieu, en me basant sur une communauté qui avait été montée et par les créateurs de cette association Avelab à la toute base. Donc voilà mon parcours, plutôt... orthodoxe, on va dire.
Et tu vois, on parle depuis tout à l'heure quand même de technologie. Tu as utilisé plusieurs fois ce terme-là. Quand on parle de technologie en général dans notre société, on pense à l'intelligence artificielle, on pense au métaverse et à tout ce qui est en train de faire Facebook. Et pourtant, le Fab Lab, il utilise aussi le mot technologie. C'est pas du tout les mêmes mondes. Je dirais presque même que c'est l'envers de la pièce de la monnaie, où d'un côté il y a le métaverse et de l'autre côté, justement, il y a les Fab Labs, que moi je vois comme un endroit beaucoup plus. Qui participe à l'autonomie, à l'éveil, au lien, à la créativité, à la débrouillardise. Je vois ça comme un endroit aussi un peu foutraque, un peu fouillis, où plein de choses se mélangent, qui sont en fait une technologie profondément humaine. Est-ce que je me trompe? Et est-ce que toi, tu peux me décrire un peu cet esprit qu'il y a, peut-être pas dans tous les Fab Labs, parce que je pense qu'en plus, ils sont très colorés en fonction des personnes qui les dirigent et qui les accueillent et qui les accompagnent, mais peut-être de celui-là dont toi, tu as la gestion?
Eh bien, écoute, aujourd'hui, un Fab Lab, ouais, complètement, c'est à l'opposé, l'opposé, je sais pas, mais en tout cas, on est vraiment dans le concret, parce que on va utiliser des machines-outils qui vont nécessiter des logiciels de création sur l'ordinateur, etc. On va, mais la fabrication est réelle. C'est-à-dire que ta plaque de bois, ton plexiglas, ton papier, il va être découpé, il va devoir être assemblé. Il va devoir être poncé, tu vas faire des erreurs, il y a vraiment cette notion-là qui est très importante dans le Fab Lab, cette notion d'essai-erreur, et ça va, en fait on va toucher, palper. Moi, pour te dire, je suis pas du tout bricoleur, ce qui est assez paradoxal, mais par contre j'ai appris justement en côtoyant en fait des gens qui ont des compétences et des gens qui des fois ne le savent même pas, mais qui viennent créer quelque chose et ne savent même plus qu'ils ont telle ou telle compétence et qu'ils peuvent la partager avec d'autres personnes. J'ai appris qu'il fallait faire attention aux proportions, quand il fallait découper telle matière, il fallait faire attention à la provenance de son bois, que telle essence de bois n'était pas adaptée à telle utilisation en intérieur ou en extérieur. Si tu veux, ça c'est réel. Et l'entraide dans le bricolage, et le bricolage et la fabrication de toute façon est très intergénérationnel aussi. C'est-à-dire que ces machines-là, quand on voit les possibilités qu'on a avec, ça peut intéresser aussi bien un enfant, un jeune adulte, qu'un retraité ou qui anciennement faisait toutes ses découpes à la main parce qu'il n'avait pas accès justement à ces machines qui allaient tout découper.
C'est une question que j'allais te poser justement. C'est quoi les publics que tu retrouves dans votre Fab Lab et justement, est-ce que tu parlais de logiciels notamment pour utiliser ces machines? C'est pas un frein? Comment vous arrivez à faire en sorte qu'on dépasse un peu ces obstacles technologiques qui pourraient parfois un peu réfréner les envies de certaines générations?
Et ben en fait, il y a plein de... Alors déjà, notre public, il est très lié, comme tu le disais, c'était très juste sur la couleur des Fab Labs, à leur fondateur. Donc nous, si tu veux, ils étaient dans l'art numérique, ils étaient architectes, graphistes. Du coup, on a des liens très forts avec les écoles d'architecture, avec les écoles d'art qu'on a dans le lieu, parce qu'on va faire des projets justement de maquettes pour vidéo projetée ou des projets artistiques, et potentiellement c'est aussi les choses qui nous intéressent le plus. Après, tu vas avoir des gens, en fait des habitants du quartier qui ont besoin de bricoler, qui ont besoin de poncer. Alors eux, ils n'utiliseront jamais de découpeuse laser, mais par contre ils ont besoin de papier à poncer, ils ont besoin d'un espace où ils peuvent faire de la saleté, et ils sont contents de pouvoir aller boire une bière et de rencontrer des jeunes qui mettent la main à la pâte, que ce soit dans le Fab Lab ou les résidents qu'on a dans le lieu également. On va avoir des professeurs qui ont envie de faire des objets pédagogiques pour leur classe. On va avoir des étudiants qui ont besoin de rendre des projets en dernière minute et de créer de la maquette. On va avoir, là je bosse beaucoup avec des centres socioculturels, sur justement leur montrer comment le Fab Lab peut être un outil pour s'approprier son centre, créer de la décoration, créer son mobilier, créer son jardin partagé, créer des jeux en bois ou des jeux pour la fête du quartier, etc. Donc après on va avoir aussi des fois on a des projets beaucoup plus tech, des projets plus cachés, des gens qui veulent monter leur qui ont l'impression d'avoir la bonne idée, qui ont un prototype à faire et qui veulent le créer en première série pour ensuite aller un peu dans des formats de start-up, mais c'est pas le cœur de mon, enfin en tout cas chez nous on a un peu moins que dans des incubateurs ou etc. Ah voilà, nos projets sont assez larges. On a, en vraiment, je dis ça assez basiquement, mais on a des gens de 7 à 77 ans, et voire plus, qui viennent utiliser le lieu. J'ai un adhérent qui est venu fabriquer sa maison la dernière fois, qui a créé en fait toute la structure de sa maison grâce à notre fraiseuse. Donc on l'a vu pendant un mois venir créer son projet, qui est ensuite... dans lequel il va aller vivre. Enfin, il y a des, j'ai vraiment tout type de projet. Et ça, c'est vraiment intéressant. J'ai perdu la deuxième question que tu m'avais donnée.
Ma deuxième question, elle était liée à ce côté intergénérationnel. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à avoir cet a priori de la technologie qui est assez inaccessible, ou en tout cas où il va falloir bidouiller, il va falloir coder, il va falloir avoir des compétences qui sont en fait assez solides. Donc je voulais savoir comment vous arriviez à rompre un peu soit ces préjugés, soit ces barrières de compétences qui existent vraiment.
Alors, déjà, il y a notamment par rapport à tout ce qui est impression 3D, il y a beaucoup il y a une notion qui est très importante dans les Fab Labs qui va être la notion d'open source et de partage de fichiers. Ces partages de fichiers, concrètement, moi j'utilise souvent cette métaphore, c'est vous allez au supermarché, vous achetez une paella déjà prête à mettre au micro-ondes, vous savez utiliser votre micro-ondes, mais vous n'avez pas créé vous n'avez pas fait le plat à la base, et vous avez juste à appuyer, à l'allumer, etc. Nous, au Fab Lab, on va vous apprendre à utiliser le micro-ondes. C'est-à-dire que la machine est simple à utiliser, le logiciel peut être plus compliqué pour dessiner en 2D ou en 3 dimensions. Donc on va programmer des formations sur ces logiciels pour ceux qui sont intéressés. Pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui pensent ne pas avoir le temps, il y a des fichiers en open source qui sont téléchargeables. Et dans le cas des adhésions qu'on a au lieu, en gros, on a différents types d'adhésions. Si on a une adhésion particulière, les fichiers qui sont créés dans le Fab Lab sont récupérés, mis sur une base de données et peuvent être partagés en fait avec d'autres utilisateurs.
En fait. Ouais. Ouais,
exactement. Et peuvent être utilisés par d'autres utilisateurs. Et notamment parce que c'est plus simple de partir d'un fichier déjà existant que de partir de zéro. Donc ça, c'est le premier frein qu'on passe. Après, aujourd'hui, on a des applications qui permettent aussi de récupérer du dessin vectoriel ou plus facilement à partir d'un téléphone. Et du coup, on passe une nouvelle étape assez facilement avec le public. Mais de manière générale, avec les plus petits, on leur fait surtout de la démonstration au début pour leur montrer et leur expliquer, regarde, tac, 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 c'est pas si compliqué que ça. En fait, c'est comme tout, ça prend un peu de temps, évidemment, on va pas vous mentir. Mais rapidement, tu peux réussir à faire des formes, tu peux réussir à faire des aimants ou à récupérer sur Internet ou à générer avec je ne sais pas quel logiciel des images que tu peux après reproduire. Voilà, la partie logicielle forcément est un frein. C'est sûr qu'on va sur des projets plus aboutis avec des étudiants ou avec des spécialistes qui savent utiliser les logiciels. Mais par contre, on a plein de parties assez simples qui sont utilisables dans des projets super divers. On n'a pas besoin d'avoir cet accompagnement et de grosses connaissances sur le logiciel.
Et donc, vous faites de la technologie un prétexte, alors pour l'autonomie, pour le lien intergénérationnel. Vous en faites aussi un prétexte, j'ai l'impression, pour une créativité un peu débordante, propre à l'être humain, avec toute une partie dédiée à l'art. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ces deux sphères qu'on pourrait imaginer séparées cohabitent et pourquoi l'une nourrit l'autre ?
Alors, déjà, moi, je pense que c'est très lié et c'est un des vrais plus qu'on a dans les Fab Labs, c'est-à-dire que c'est des machines qui existent quand même depuis un certain temps. Ça ne savait pas 2 ans que ça existe, c'est pas même l'impression 3D, ça a plusieurs années maintenant. Mais elles sont utilisées dans le cadre d'industrie, dans une utilisation très claire. Ça va découper telle pièce, ça va faire telle pièce, etc. Et nous, on va les sortir de là. encore une fois, on est un outil. Et en fait, si tu veux, c'est la vraie plus-value d'un Fab Lab, c'est sa communauté et c'est les gens qui viennent l'utiliser. Donc, la créativité, en fait, elle est stimulée en montrant à voir ce qui a déjà été fait, ce qu'on peut faire avec. Et après, on laisse la magie opérer dans le cerveau des gens et c'est eux qui vont nous proposer des choses, qui vont nous dire « Ok, mais je pourrais l'utiliser de telle manière. Ah, en fait, je peux venir faire de la custom de mes baskets en cuir avec la découpeuse laser. Je peux travailler du papier pour faire des boîtes. Je peux après, le mobilier, il y a... Ouais, en fait, ça s'auto-nourrit dans un lieu où les gens échangent, discutent. Et par rapport à la partie intergénérationnelle, on va avoir justement des liens où on va avoir des personnes qui sont plus âgées, qui vont donner des conseils sur la partie manuelle. On va avoir, là, ils vont croiser un étudiant qui est en train de monter un projet sur son ordinateur, qui l'a rarement vu en physique. On a plein d'étudiants, même en communication, etc., qui savent utiliser le logiciel de dessin et tout, mais qui l'utilisent que pour faire des affiches, etc. Et là, on leur dit, en fait, vous avez la possibilité rapidement de créer un objet, de devenir un designer, entre guillemets, hein, mais de monter quelque chose. Et du coup, ils vont pouvoir échanger. Et ça, c'est que pour la partie Fab Lab. Après, dans le cadre du lieu, après, on a tous les artisans qui sont résidents dans le lieu, qui, eux, ont des compétences encore spécifiques. Et justement, ça va leur permettre, en voyant un tel, de se dire « Ah, mais là, j'ai des typographes, par exemple, de Noon, du coup, ils ont des anciennes presses, des Heidelberg, pour faire de l'impression typographique. Leurs tampons sont en fonte, en plomb. Donc, pas très pour faire des ateliers avec les enfants, c'est pas le top. Ça s'abîme vite, ça peut être toxique, etc. » Les premiers tampons, ils étaient comment à l'époque? Ils étaient en bois. La matière première est accessible. Du coup, ils ont travaillé avec le Fab Lab sur la création d'outils pédagogiques et de tampons découpés, gravés au laser, qui ensuite sont passés dans d'anciennes presses et du coup dans des ateliers à destination des enfants où ils vont aller graver leurs tampons. Ils vont voir, ah ok, il y a un logiciel de dessin. Ah, derrière, hop, on passe sur une machine, on a dû mettre du bois. On a récupéré du bois, boum, on a un illustrateur ou un typographe qui nous a fait une typo. Encore un autre métier qui est caché derrière. Ok, très bien, derrière, je vais aller là-bas. Ah, une vieille presse. Ah, mais c'est comme ça qu'on faisait les bouquins avant, on assemblait les caractères typo. Boum, le gamin, il a passé 2 heures. Il a abordé 6 métiers dont il n'avait jamais entendu parler. Qui sont super épanouissants, qui te permettent de dire ok, à la base je voulais faire quelque chose, enfin je venais voir quelque chose, mais en fait j'en ai découvert plein. Il y a plein de gens intéressants qui ont tout âge et qui ont plein de formations différentes. Et moi, pour moi, la magie, elle opère là, quoi. C'est moi, je pense que si je dois me définir, plus en création de connexions et de liens entre des gens que en innovateur ou autre chose, quoi.
On parlera tout à l'heure de l'innovation et de sa place, encore ou pas d'ailleurs, en 2030 glorieuse. Tu disais que tu n'étais pas du tout bricoleur et que du coup c'était marrant que tu te sois retrouvé dans un Fab Lab, et à la fois tu parles tellement avec tes mains, et d'ailleurs toutes les personnes qui nous écoutent, quand vous entendez taper sur le bureau que Noé a en face de lui, c'est parce qu'il parle avec ses mains, et donc du coup je pense que tu avais déjà un lien au manuel, que tu le veuilles ou non. Là on va bientôt partir en 2030 glorieuse, Noé, et normalement j'offre cet espace-là pour que la personne à qui je donne la parole arrive avec un roman, avec un passage d'un bouquin qui l'inspire. Et là, le hasard du calendrier fait que, après Alexandre Rambaud, tu es l'une des rares personnes qui me dit « écoute, là, c'est vrai que cette exigence d'un roman utopiste, d'avoir un passage long, elle n'est pas évidente. » Et du coup, tu m'offres l'opportunité à moi de lire un passage, ce que je m'empresse de faire. Et je profite donc de cette belle opportunité pour vous proposer un extrait du livre « L'arbre monde » qui a été écrit par Richard Powers et qui est un livre qui m'a bouleversé puisque les protagonistes sont des arbres. Les premières pages commencent comme ça. Thank you. Au début, il n'y avait rien. Et puis, il eut tout. Alors, dans un parc dominant une ville occidentale, après le crépuscule, l'air déverse une pluie de messages. Une femme est assise par terre, adossée à un pin. L'écorce appuie contre son dos, aussi dur que la vie. Les aiguilles parfument l'air et une force bourdonne dans le cœur du bois. Ses oreilles s'accordent aux fréquences les plus basses. L'arbre dit des choses, en mots d'avant les mots. Il dit « Le soleil et l'eau sont des questions qui méritent sans fin des réponses. » Il dit « Une bonne réponse doit être réinventée bien des fois, à partir de rien. » Il dit « Chaque morceau de terre réclame une nouvelle façon de le saisir. Il y a plus de façons de se ramifier qui n'en dessinera jamais un crayon de cèdre. Une chose peut voyager partout, rien qu'en restant immobile. » C'est exactement ce que fait la femme. Les signaux pleuvent autour d'elle comme des graines. La parole ce soir court à travers les champs. Les courbes des aulnes évoquent des catastrophes anciennes. Les épines des pâles fleurs du châtaignier d'Amérique secouent leur pollen. Bientôt, elles se mueront aux fruits épineux. Les peupliers répètent les ragots du vent. Les plaques miniers et les noyers organisent leur corruption et les sorbiers leurs grappes rouges sang. Les chênes vénérables agitent des prophéties du temps qu'il fera. Les centaines d'espèces d'aubépines rient du nom unique qu'on les force à partager. Les lauriers soutiennent que même la mort ne mérite pas qu'on en perde le sommeil. Quelque chose dans le parfum de l'air ordonne à cette femme. Ferme les yeux et pense au saule. Les pleurs que tu verras seront inexacts. Imagine une épine d'acacia. Rien dans ta pensée ne sera assez pointu. Qu'est-ce qui plane juste au-dessus de toi? Qu'est-ce qui flotte au-dessus de ta tête à cet instant, maintenant? Des arbres encore plus loin se joignent au cœur. Toutes tes façons de nous imaginer, mangrove ensorcelée sur pilotis, la bêche inversée d'un muscadier, les trompes d'éléphant du Baja noueux, le missile érigé d'un sale, ne sont jamais qu'amputations. Ton espèce ne nous voit jamais en entier. Vous en manquez la moitié, au moins. Il y a toujours autant sous terre qu'au-dessus. C'est ça le problème avec les humains, à la racine de tout. La vie court à leur côté inaperçue, juste ici, juste à côté, créant l'humus, recyclant l'eau, échangeant des nutriments, façonnant le climat, construisant l'atmosphère, nourrissant, guérissant, abritant plus d'espèces vivantes que les humains ne sauraient en compter. Un cœur de bois vivant chante aux oreilles de la femme. Si ton esprit était seulement un peu plus vert, nous te noirions de vérité. Le pain auquel elle s'adosse dit « Écoute, il faut que tu entendes ça. » Ça y est, on est en 2030 glorieuse, Noé. Alors, c'est vraiment quelque chose qui tient presque du miracle intellectuel, puisqu'il va falloir que pendant une vingtaine de minutes, on arrête d'être français. C'est-à-dire qu'on arrête de penser que la critique ne peut être que négative et qu'on doit commencer une phrase par « oui mais » pour avoir l'air intelligent. On va autoriser notre capacité à être utopiste, optimiste et à se dire qu'en partant des 2030 glorieuses qu'on a envie de voir advenir, alors on sera encore plus efficace dans le mouvement du présent. Les 2030 glorieuses, tu les connaissais déjà, toi, à l'époque, en 2022, quand on a eu cette interview, je ne sais pas si tu t'en souviens, puisque tu contribuais avec un Fab Lab à être parmi les signaux faibles de ces fameuses 2030 glorieuses. Mais là, ça y est, on y est dans ces 2030 glorieuses. Les métiers comme le tien, les tiers-lieux comme ceux que tu occupais à l'époque ont été complètement normalisés, presque devenus évidents. Et ce que j'aimerais qu'on discute ensemble, c'est comment ça a eu un impact sur la vie des Français, sur notre économie, sur notre créativité, sur notre autonomie. Et la première question, Noé, du coup, c'est qu'en 2030 glorieuse, il y a désormais un Fab Lab dans quoi? Chaque ville, chaque village, c'est devenu comme le bureau de poste, le Fab Lab?
Ben, tout à fait, évidemment. C'est un lieu de rencontre. Le Fab Lab, il a fusionné avec le bar de ton village. Et en fait, au moment où tu vas aller boire un coup, et ben, t'auras la possibilité, enfin, on a la possibilité aujourd'hui d'aller en fait créer des choses, d'accéder à une banque de fichiers et des créations directement. On peut refabriquer et réaménager les éléments de notre quotidien directement soi-même. On peut les échanger, on sait d'où vient notre mobilier, on sait que les personnes qui le créent ou qui l'assemblent, ben, c'est soit toi, soit quelqu'un qui est pas très loin de chez toi, ou en tout cas que tu peux identifier. Et les gens ont la conscience de la valeur des choses. Ça c'est très important et déjà en 2022 c'était une des missions qu'on avait, c'était de rappeler aux gens, regardez les objets qu'il y a autour de vous, il y a des gens qui ont mis un peu de leur âme à l'intérieur et quand on met cette âme là à l'intérieur d'un objet, on a envie de le respecter un peu plus et dans ces Fab Labs qui sont fusionnés avec des cafés, des bars, etc., et ben on a des gens qui vont venir parler de tous les sujets mais qui en parallèle vont également pouvoir créer des projets créatifs pour leur ville, pour leur quartier en termes d'idées ça va de, enfin, c'est vraiment tout et n'importe quoi.
Ouais, c'est ça. On a des Fab Labs qui sont dans des MJC, donc là, ils ont des tendances un peu plus créatives. On a des Fab Labs qui sont dans des Repair Cafés. Et alors là, c'est vraiment sur la question de la durabilité de nos projets et de nos produits. On a en fait ce Fab Lab qui est l'occasion de favoriser vraiment, vraiment l'autonomie de l'individu avec presque aujourd'hui, en 2030 Glorieuse, le réflexe de se dire que plutôt d'acquérir absolument un nouveau service, un nouveau produit, on va d'abord voir ce qu'il y a dans la grande bibliothèque des communs du Fab Lab, en fait.
Exactement. Et tu parles des MJC, et je pense que le lien est très fort et très important. S'il faut retenir quelque chose dans ces lieux-là, c'est que c'est des lieux de lien social. Et je pense que c'est le plus important là, tout ça. Le prétexte, il est la fabrication, il est le faire soi-même, il est avec toutes les valeurs qui sont très importantes derrière tout ça, c'est-à-dire de savoir d'où ça vient, qu'est-ce que ça consomme, qu'est-ce que c'est que cet objet, qu'est-ce que c'est les compétences qu'il y a derrière, etc. Mais le principal, c'est surtout de donner des opportunités aux gens de rencontrer leurs voisins. Et je pense que c'est ce qui est le plus important. Vu qu'on a le monde, on a tendance à se rapprocher des gens qui nous ressemblent, on a tendance à être dans des microcosmes et à voir des gens qui nous ressemblent beaucoup. Et je pense que ces nouveaux lieux, qui ont maintenant une bonne vingtaine d'années, sont des lieux justement où on va rencontrer des gens qui nous ressemblent pas forcément, parce que ça s'est démocratisé et parce que tous les publics sont amenés à venir dès le plus jeune âge. Parce que pour moi, les Fab Labs sont dans les écoles. La dynamique à l'école, on n'a plus peur de faire une erreur, on n'a pas peur de donner une mauvaise réponse, on a l'envie de progresser ensemble en faisant des erreurs, en apprenant en faisant ces erreurs-là, et on sait qui fabrique quoi, d'où ça vient, et on sait que les gens derrière sont bien payés et ont une vie simple et heureuse.
Et restons là-dessus justement, comme tu le disais, le Fab Lab, il nous a permis d'inverser la charge de la production et de nous libérer dans notre consommation, puisqu'en fait, grâce au Fab Lab, on connaît la valeur des choses, et grâce au Fab Lab aussi, on n'achète plus parce qu'on est démuni, on achète parce qu'on a compris le pouvoir qu'on avait aussi en achetant. Et donc, il y a des Fab Labs, tu l'as dit, dans toutes les écoles. Aujourd'hui, on apprend à construire, on apprend à fabriquer, on apprend à faire en sorte que ces imaginaires qu'on a se concrétisent par nos mains, par les machines, dans la vraie vie. On apprend aussi à réparer, si bien qu'aujourd'hui, la technologie nous apparaît plus comme obscure, opaque, inaccessible. En fait, le Fab Lab, alors que c'était des outils, a permis de libérer l'être humain.
Je pense que oui. Évidemment, ouais, on parlait des Repair Café. Il y a plein de notions qui sont liées au Fab Lab. On pète une petite partie de son écouteur. On reproduit facilement grâce aux nouvelles technologies le fichier 3D. On le scanne et on le réimprime. Ça nous évite toutes ces problématiques d'obsolescence programmée, etc. Évidemment, ça, c'est réglé. De toute façon, aujourd'hui, les entreprises mettent en ligne une banque de fichiers réimprimables directement à domicile par le consommateur, téléchargeable lors de l'achat potentiellement. De toute façon, notre société a enfin compris qu'il fallait que c'était pas forcément une bonne chose de surconsommer et qu'il fallait en fait se modérer, je pense, dans nos consommations et faire peut-être moins, mais mieux. Voilà.
Et donc c'est pour ça que c'est un peu plus cher à l'achat. Quand on achète effectivement l'objet, mais on achète aussi toute la recherche et développement qui va derrière avec le fichier source, comme tu le dis, ce qui nous rend complètement autonome au sujet de la réparation.
Tout à fait. Et de toute façon, ça passe. La fabrication permet ça, de se rendre compte de toutes les étapes. En fait, le temps qu'on a passé pour apprendre le logiciel, le temps sur le logiciel, le passage au réel. Et ensuite, la manip, la fabrication. Enfin, c'est, de toute façon, là, un objet, une moindre chaise, quand tu veux la fabriquer toi-même, ça va te prendre du temps. Et ce temps-là, si on doit l'estimer de manière pécuniaire, c'est très compliqué d'arriver à un prix qu'on avait sur des chaises en 2000.
Impossible
en 2020.
À tenir. Ouais, impossible à tenir. Ou à l'époque, on respectait pas et on valorisait pas du tout la main d'œuvre à sa juste valeur.
Je pense. Et surtout, aujourd'hui, on valorise aussi la compétence et le fait d'apprendre. C'est-à-dire que en plus d'avoir une chaise, maintenant c'est ma chaise et je sais comment en reproduire une potentiellement, ou comment l'améliorer, ou comment l'entretenir, comment la faire durer, etc. Et ça, on est bien en 2030.
Ouais, on est grave bien. Et du coup, en plus, on est devenu aussi hyper joueur dans le sens où maintenant qu'on sait qu'on a ce pouvoir dans les mains, en fait, on voit tout le monde autour de nous comme une ressource potentielle à transformer, à protéger forcément. Mais je parle notamment de ces montagnes de déchets qu'on a accumulés depuis des dizaines et des dizaines d'années. On se rend compte qu'en fait, ces déchets, c'est pas quelque chose qu'on doit enfouir, mais au contraire, quelque chose qu'on doit ressortir, remettre à l'air libre, tellement ce sont des nouvelles ressources. Je pense là au premier projet qui me vient en tête, qui existait déjà il y a une dizaine d'années en arrière, avec Precious Plastic, qui en fait faisait de tous les objets en plastique à nouveau une matière première qu'on pouvait retravailler. Mais en fait, ça maintenant, c'est vrai avec le bois, c'est vrai avec tellement d'autres choses.
Et ça tombe bien que tu parles de ça, parce qu'il y a du coup, il y a 10 ans, on avait dans notre tiers-lieu une ONG qui travaillait sur le recyclage du plastique et qui avait du coup des machines Precious Plastic. Et aujourd'hui, on a pu voir l'évolution et le passage en fait simple, comment à partir des déchets qu'on va ramasser dans la rue lors de dépollution, on va pouvoir recréer de la matière première exploitable, réutilisable, etc. Et aujourd'hui, les machines sont de plus en plus efficaces, c'est de plus en plus simple, on peut mélanger tous les types de plastique et on a des moules pour absolument tous les objets en lien, parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on avait besoin de repasser par des artisans type forgeron ou autre pour créer des moules qui nous permettraient ensuite d'injecter le plastique à l'intérieur, recréer des objets du quotidien, etc. Donc,
c'est ça qu'on appelle l'innovation, hein. D'ailleurs, maintenant, en 2030 glorieuse, je ne sais pas si tu te souviens, il y a une dizaine d'années en arrière, l'innovation, c'était la miniaturisation à l'extrême. C'était d'avoir des télés les plus grandes possibles ou transparentes et pourquoi pas des objets autonomes, blindés et dopés à l'intelligence artificielle. Tout ça, ça a été mis de côté, abandonné, parce qu'on se rendait compte que le coût écologique et humain était absolument désastreux. Et aujourd'hui, du coup, on continue à innover. On utilise ce terme d'innovation. Par contre, c'est pour innover et faire des déchets des ressources, innover et redéployer des nouveaux métiers, innover et combiner des savoir-faire pour les remettre au goût du jour. L'innovation, elle a un sens beaucoup plus humaniste, avec des vertus aussi beaucoup plus écologistes.
Oui, c'est vraiment humaniste et social. En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse. Principalement, encore une fois, c'est ces moments où on a donné des prétextes aux gens pour se rencontrer, pour discuter et pour en fait, casser les barrières des communautés,
des milieux sociaux, etc., à travers en fait du faire soi-même, des moments de rencontre, des échanges.
Raconte-moi comme ça une innovation sociale qui a été facilitée grâce au Fab Lab.
Une innovation sociale qui a été facilitée grâce au Fab Lab. Écoute, toutes ces actions qu'on va faire. Dans le cadre notamment du jardin pédagogique, des jardins pédagogiques qu'on a dans la ville de Strasbourg, donc notamment dans des écoles, dans des quartiers prioritaires, etc., où des enfants ont pu s'approprier justement leur jardin et apprendre à découvrir la nature et les petites bêtes, mais également ont pu découvrir des lieux où on pouvait fabriquer des nichoirs, où on pouvait venir fabriquer des os à insectes, on découvrait à quoi servait une abeille, parce qu'en 2020, on avait failli oublier que c'était important pour nous. Et en fait, ces enfants sont venus en 2020, ont découvert ces lieux pour créer et accompagner leur jardin, accompagné par leur institutrice. Mais aujourd'hui, quand ils sont venus, ils ont découvert leur passion, ils ont rencontré un artisan, un métier qu'ils ne connaissaient pas. Ils en ont découvert une passion. Ils sont réintéressés. Ils ont découvert ces logiciels. Ils ont travaillé. Et aujourd'hui, ben, tout simplement, ils sont contents parce qu'ils font. Ils ont développé leur entreprise. Ils sont intégrés dans des structures où ils peuvent venir intervenir.
Et ce que tu dis, c'est que le Fab Lab aussi les rend à nouveau acteurs de leur propre éducation, parce qu'il éveille tellement la curiosité, l'intérêt, que c'est plus un effort d'apprendre en 2030 glorieuse. Au contraire, on a des outils comme ça qui sont des étincelles d'apprentissage que suivent après très naturellement les enfants.
C'est ça, parce que c'est toujours plus simple d'apprendre en s'amusant. Et que la magie de ces machines-là, c'est qu'elles sont rapides, qu'elles nous permettent facilement d'être fiers de soi. Et ça, c'est quelque chose de très important. La création permet d'être fier de soi. Un objet permet de se valoriser auprès des autres, d'expliquer la démarche qu'on a eue et parler de tout ça. Et en fait, avoir des choses à dire, c'est quelque chose de très important. C'était très important en 2022 et ça l'est encore plus aujourd'hui parce que en fait la discussion et du coup l'expérience est un vecteur de lien social et un vecteur de rencontre, d'échange, de création de projets, de créativité, tout simplement parce qu'on est heureux de pouvoir parler avec son prochain et de lui donner des informations.
Ouais, là où il y a 10 ans en arrière, on avait l'objet comme symbole de la propriété, de l'accumulation et donc de l'individualisation. Chacun se réfugiait dans sa propre bulle qu'il remplissait d'objets. Aujourd'hui, on se sert de l'objet comme un prétexte pour des rencontres. Et d'ailleurs, quelque chose qui me fait penser à ça, en 2030 glorieuse, où nos mondes, nos territoires se sont vraiment réancrés localement et où c'est vrai, on est beaucoup plus acteurs directement dans notre sphère du quotidien. On utilise ces Fab Labs et les objets qu'on participe à créer, à inventer comme un prétexte à la rencontre entre territoires. Je pense notamment à ces Fab Labs mobiles qui vont montrer les nouvelles créations d'un territoire à l'autre grâce aux gares, par exemple. Et donc, on a des Fab Labs aujourd'hui qui se baladent sur des wagons qu'ils ont même, eux, participer à créer pour aller faire une sorte d'exposition universelle de toute cette inventivité au bon sens du terme.
Bah, tout à fait. Et je suis content parce qu'on en a porté des Fab Labs mobiles. Et c'est vrai que c'était déjà en 2022, c'était déjà un plaisir en fait, de se déplacer sur des territoires, de montrer justement que les gens se bougent, qu'on est capable de faire des choses. Et facilement, on arrive à créer des liens, des connexions, notamment dans des régions où, entre différentes villes, faire partager des compétences, montrer des choses qui se font en fait pas si loin de chez nous, et en fait recréer un intérêt pour tout un tas de sujets grâce en fait à la fabrication side. De l'astronomie, à l'histoire de l'Europe. En fait, on peut trouver des prétextes pour parler de plein de choses et apprendre plein de choses, de les déplacer, de valoriser des territoires grâce à ces Fab Labs mobiles, justement, valoriser une architecture dans une autre ville pour donner envie aux gens d'aller les découvrir. Enfin, ça va très très loin et c'est vrai que c'est vrai qu'on est bien.
C'est fou qu'en fait, je t'entendais parler tout ça et je me rendais compte qu'en 10 ans, on a réussi à faire en sorte que l'objet passe du symbole de la propriété privée au symbole de la libération, du partage des communs. Et les Fab Labs, pour ça, c'est l'incarnation des communs, l'incarnation de la mise en réseau, l'incarnation de la liberté et de la libération des savoirs, en fait.
Tout à fait, et surtout ces nouvelles façons d'apprendre, je pense, et justement, oui, de créer du lien, c'est toujours ça, c'est l'objet, c'est ça. En fait, c'est plus juste une chaise sur laquelle tu es assis, c'est une chaise que j'ai fait à tel moment avec un tel, qui m'a pris tant de temps, ça m'a permis de rencontrer telle personne, d'aller en parler avec. Enfin voilà, c'est beaucoup plus qu'un objet justement utile. C'est une histoire, c'est quelque chose à raconter, c'est valorisant, c'est ça l'objet.
Toi, quoi. Noé, tu fais quoi en 2030 glorieuse?
2030 glorieuse. Alors, en 2030 glorieuse, je suis très heureux parce que notre projet de tiers-lieu des ateliers éclairés, il s'est pérennisé et il y a tout un quartier qui s'est monté autour. On est vraiment intégré dans la vie de ce quartier-là et le public est heureux de venir partager des moments de tout type. Moi, en 2030 glorieuse, je peux être tout à fait seul dans un avec mon ami à m'occuper d'un jardin ou à monter des projets avec les gens qui m'ont permis d'en être là aujourd'hui, de continuer à suivre leurs projets potentiellement. Tout à fait autre chose.
C'est pas toi qui anime alors ce grand interville des Fab Labs avec les Fab Labs mobiles, alors c'est pas toi qui t'occupe de ça.
Non, mais par contre, je suis très heureux parce que notre festival Makerland qu'on a monté en 2022 dans toute la région Grand Est s'est développé partout dans le monde et il a permis justement de faire connaître justement tous ces gens qui créent, tous ces bidouilleurs, tous ces artisans, tous ces artistes et de le faire découvrir en fait à des sphères différentes. Parce qu'encore une fois, le faire soi-même intéresse tout le monde, parce que tout le monde bricole, tout le monde cuisine, tout le monde s'occupe a une passion et a envie de faire des choses. Et du coup, c'est un lien et c'est des connexions, des choses qui rapprochent tout type de public. Donc non, je suis heureux parce que ça a marché, Makerland. Je m'occupe pas de l'interview des Fab Labs. Mais c'est pas grave parce qu'il y a des. Je commence à me faire vieux et il y a d'autres jeunes qui arrivent super chaud et qui ont envie de tout défoncer.
Si on commence à envisager l'atterrissage en douceur en 2022 pour toutes les personnes qu'on a fait rêver avec toutes ces idées, avec ces Fab Labs partout, pour tous, par tous. Qu'est-ce que toi, tu leur recommanderais comme pas supplémentaire, là, depuis les 2022, pour les faire advenir ces 2030 glorieuses qu'on a dessinées, qu'on a imaginées ensemble? Par quoi on continue?
Alors, pour le grand public, moi, je les incite fortement à se rapprocher de ces lieux-là qui existent aujourd'hui. Il y a une dynamique autour de ces Fab Labs qui sont montés principalement par des bénévoles et par des initiatives, on va dire, associatives et privées.
Et ça, c'est un peu de partout, c'est dans les écoles, c'est des assos, c'est quoi?
Un Fab Lab, par essence, doit être ouvert au public. Et du coup, dans une école, c'est on parlerait d'autres... On parlait pas de Fab Lab parce que c'est un label, etc. Mais oui, il y en a qui sont dans des friches, qui sont dans justement des anciens lieux qui ont été réhabilités. Ça peut être dans des appartements que des gens louent pour mettre à disposition des machines. Il y a tout type de lieux qui sont portés par des bénévoles et par des équipes salariées. Mais surtout, moi, j'incite, c'est les pouvoirs publics à se rendre compte de l'intérêt de ces lieux-là. C'est de plus en plus le cas. Et à soutenir de manière forte pour pérenniser ces actions-là et permettre aux acteurs de ces lieux d'avoir un avenir radieux qui leur permet de développer des projets dans de bonnes conditions. Et leur permettre en fait de rendre tous ces rêves possibles en leur donnant du temps, en valorisant leur travail. Et le Fab Lab est devenu un service public,
Mais si le Fab Lab n'existe pas en 2022 pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent mais en fait j'ai trop envie d'aller dans un endroit comme ça et ça n'existe pas autour de chez moi, ils le créent, ils viennent t'en parler, il y a des ressources comme ça qui peuvent les aider pour
oui,
se lancer.
Alors il y a le réseau français des Fab Labs qui sera beaucoup plus compétent que moi pour parler vraiment de tout ce qui est la philosophie du Fab Lab, parce que Il y a beaucoup de travail qui a été réalisé autour de ces sujets-là et je ne suis pas le plus grand expert sur le sujet. Il y a des associations de tiers-lieux comme France Tiers-lieux, etc., qui montent ces projets et qui accompagnent les porteurs de projets. Du coup, je les incite à se rapprocher de ces institutions. Après, moi, ce que j'incite le plus facilement, c'est de venir taper à la porte d'un de ces lieux tout simplement d'être curieux et de poser des questions. Alors des fois on tombe pas au bon moment et on n'a pas la réponse qu'on veut, mais en fait c'est toujours pareil, c'est des relations humaines et le mieux c'est d'aller voir les acteurs en direct, de leur poser leurs questions, de savoir comment ils ont fait, de savoir comment on peut refaire ça et de se rapprocher d'eux, quoi, d'aller leur proposer des projets, de les faire vivre, parce qu'en leur proposant des projets, on leur permet de pérenniser leur action et de leur rappeler que c'est bien ce qu'ils font, comme la plupart des gens qui passent nous le disent, pour nous donner du baume au cœur et nous inciter à continuer, parce que, évidemment, c'est des modèles économiques qui sont compliqués et du coup, ça demande beaucoup d'investissement en temps et en humain. Qui en fait au fur et à mesure peut s'estomper parce qu'on va user les cerveaux des acteurs et donc c'est toujours bien de
rien qu'un bravo, ça fait du bien,
ouais, ou de venir voir et de leur dire c'est cool, j'ai passé un bon moment, continue comme ça, ça c'est bien.
Merci Noé.
Merci à toi.
Et voilà, ça y est, cet épisode avec Noé Milesi vient de se terminer. Je suis très content de pouvoir continuer à explorer les métiers des 2030 Glorieuses. Je vous avoue que le jour où je me suis lancé avec cette histoire des 2030 Glorieuses, il y a près de 3 ans maintenant, j'aurais jamais imaginé à quel point la bibliothèque des métiers de demain était riche, elle était variée, elle était nuancée et elle était aussi présente sur tout le territoire. Voilà, là, avec l'exemple d'aujourd'hui, du travail de Noé, de programmateur de tiers-lieu, et notamment avec tout ce qui tourne autour du Fab Lab, c'est vraiment quelque chose de passionnant, là en l'occurrence lié à Strasbourg, et du coup ça permet de montrer qu'il y en a pour toutes les compétences, pour toutes les envies, pour tous les talents, et qu'en plus on n'est pas forcément obligé d'être à Paris pour pouvoir participer à la construction des mondes de demain qui, je le rappelle, et je le montre presque tous les jours avec les 2030 Glorieuses, existent en fait déjà dès à présent en 2022 et ça fait un bien fou. Là en l'occurrence avec Noé, on a parlé de comment la technologie grâce au Fab Lab, elle permettait de remettre de l'autonomie dans les mains et dans les cerveaux des gens qui en fait en faisant se rendent compte des spécificités des produits et des objets de notre quotidien et qui aussi les démystifient, mais aussi du Fab Lab comme un créateur de liens intergénérationnels, interculturels et qui permet en fait finalement de rapprocher les gens plus que de continuer à les isoler et de leur faire croire qu'ils seront heureux en accumulant le maximum de produits. Voilà, encore un épisode que moi en tout cas j'ai trouvé passionnant et j'espère sincèrement que c'est votre cas. Je vous remercie de nous écouter à chaque fois jusqu'au bout, je vous remercie de suivre et de propager les 2030 Glorieuses et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, salut!
Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 Glorieuses avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !